Oui, c'est un peuple avant tout profondément pacifique.
C'est merveilleux, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait aller là-bas.
I don't ever want to say Tonga like Tonga, because it's much easier that way. Everyone can pronounce it. If I take this time to teach you how to pronounce it, will you please take the time to say it? Tonga, Tonga, Tonga.
La grande pirogue. Pierre Rian, Caroline Lafargue.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la grande pirogue, on prend notre seau et notre pelle direction la plage pour faire quelques travaux de maçonnerie. Car nous allons nous demander si construire des digues, finalement, c'est bien efficace pour lutter contre la montée de l'océan. Selon l'ONU, le niveau moyen des océans augmentera de 28 à 58 cm d'ici la fin du 21e siècle. Alors bien sûr, quand on vit sur un atoll corallien, qu'on est régulièrement inondé par les grandes marées, le premier réflexe, c'est de construire un mur pour stopper l'eau. C'est une solution psychologiquement très puissante, très rassurante. Derrière mon mur, enfin, je suis en sécurité, mon potager, ma maison sont hors d'atteinte. Pourtant, rien n'est moins sûr. Les ONG de défense de l'environnement et les gouvernements du Pacifique, et même d'ailleurs, continuent à demander de l'argent pour construire des digues, mais l'efficacité de cette solution est remise en question par bon nombre de scientifiques. Les digues pourraient même se révéler être contre-productives. Fin février, Majuro, la capitale des îles Marshall, a été à moitié inondée par une nouvelle marée haute, par une nouvelle grande marée, un phénomène qui va immanquablement s'accélérer, estime le chercheur Murray Ford de l'Université de Hawaï. Le gouvernement marshallais a bien compris l'urgence, alors en novembre dernier, l'ambassadeur des îles Marshall auprès de l'ONU, Philippe Muller, a lancé un appel aux donateurs pour l'aider à financer une grande digue de 5 km autour de Majuro, l'île capitale. 20 millions de dollars pour un mur qui sera construit à 1 mètre au-dessus du niveau de l'océan, selon une technologie courante. Philippe Muller. Notre projet, c'est de déterrer le récif corallien à marée basse et de débiter le récif en pierre avec lesquels nous construirons la digue, ce qui permettra de réduire la force des vagues. Philippe Muller, l'ambassadeur des îles Marshall auprès de l'ONU, était interviewé par Géraldine Coutts sur Radio Australie en novembre dernier. Pour l'instant, la construction de cette grande digue en pierre n'a pas encore commencé à Majuro, mais de l'avis d'un ingénieur expérimenté, cette technologie, utilisée dans d'autres pays du Pacifique, n'est de toute façon pas la meilleure et de loin. On écoute John Jarvie, le PDG de APS Marlan, une entreprise australienne qui construit des digues en Australie et dans le Pacifique.
This is the problem. We talk about conventional seawalls, sandstone seawalls.
C'est ça le problème. Là, on parle d'une digue classique, des digues en béton, en pierre de corail, bref, un enrochement de protection posé sur la plage. Toutes ces digues sont conçues pour arrêter l'érosion des vagues, mais elles n'empêchent pas l'eau de filtrer à travers la digue, ce qui fait que la digue finira par s'enfoncer, et c'est une perte de temps. J'ai entendu dire qu'aux îles Marshall, ils veulent casser le récif de corail et tailler des pierres pour construire une digue, mais je me demande bien pourquoi. Le récif de corail arrête les vagues naturellement. Si vous le détruisez, vous augmentez l'érosion des vagues.
Cela ne veut pas dire pour autant que toutes les digues sont inefficaces. C'est en tout cas le point de vue de John Jarvie. Pour lui, c'est une question de matériaux et d'ingénierie.
One of our designs, a subterranean wall, which actually you don't see the wall, like an earth levee.
L'un de nos modèles est une digue souterraine, invisible. On voit juste une levée de sable. On rempote du sable sur et devant la digue, donc c'est comme une dune de sable, si vous voulez. Quand c'est nécessaire, on pompe du sable pour que la digue soit bien couverte. Et ensuite, quand on a gagné du terrain, on essaie de replanter des arbustes sur la dune. Et la dune arrête la vague. S'il y a quand même un peu d'érosion, ce sera uniquement devant la dune. Et dans ce cas, il suffit de remettre du sable sur le sommet de la dune. Ce sont des digues en compost de résine. C'est non corrosif et cela prend deux fois moins de temps à construire qu'une digue en dur parce que c'est un matériau très léger. Nos digues sont garanties 50 ans sans maintenance. Et une fois que vous avez compris comment ça marche, les habitants des îles pourraient les construire eux-mêmes, ces digues. Avec notre technologie, nous pourrions permettre aux insulaires de rester sur leur île pour encore 10, 20, 30 ans et plus, avant de penser à les déraciner et à les installer ailleurs.
Quelle que soit la technologie utilisée pour ériger une digue, le scientifique John Hunter estime qu'il faut y réfléchir à deux fois avant de poser la première pierre. Océanologue à l'Université de Tasmanie, John Hunter s'est spécialisé dans l'étude de l'impact de l'élévation du niveau des océans.
If you put a wall in, even if you don't have sea level rise, then what that wall does is generally it increases the erosion due to waves.
Si vous construisez une digue, même sans l'élévation du niveau de l'océan, cela accroît l'érosion par les vagues. Les vagues qui s'abattent sur cette surface dure viennent creuser le sable devant le mur. Normalement, les vagues apportent du sable, mais aussi elles retirent du sable de la plage. Pour en déposer au fond de l'eau, c'est une adaptation naturelle à l'élévation du niveau de l'océan. Avec une digue, cette circulation du sable n'est plus possible. Les vagues ne peuvent pas aller chercher du sable ni en déposer derrière le mur. Elles creusent uniquement au pied de la digue, donc l'érosion augmente. C'est pour ça que les digues sont généralement contre-productives. Alors, vous avez des archipels comme les Maldives qui ont décidé de construire des digues partout, très bien, mais c'est très coûteux et vous vous retrouvez avec un mur en béton qui encercle l'île. Au-delà du mur, les plages ont disparu à cause de l'action des vagues et de l'élévation du niveau de l'océan. Et à l'intérieur de ce mur, vous êtes à l'abri des inondations, mais vous vivez dans une forteresse au milieu de l'océan.
Et encore, ce fort demande beaucoup de maintenance. John Hunter s'est rendu sur l'atoll de Taku'u, au large de Bougainville, en compagnie du géomorphologiste australien Scott Smithers. À cette occasion, ils ont été filmés dans le cadre du film documentaire « There Once Was an Island », Grand Prix du FIFO 2010 à Tahiti. Dans ce documentaire, on voit les villageois occupés à reconstruire des murs de fortune faits de pierres liées entre elles par des cordes. La plage a totalement disparu, mais quelques mètres plus loin, là où les villageois ont laissé la plage telle qu'elle pour y ranger leurs pirogues, eh bien, le sable est toujours là. Visuellement, la différence est vraiment frappante.
As you can see, most of the seawalls are built just in front of houses.
Yeah.
So if I had a house along the beach, I would build my seawall. But as you can see, there are no huts out there, so there are no seawalls. But the other good thing is, they do bring a little sand.
They do
bring up little sand.
Et dans cet extrait de There Once Was an Island, on entend une discussion entre le géomorphologiste Scott Smithers et un jeune villageois. Et le géomorphologiste lui explique « Les digues, ce n'est pas forcément la meilleure solution, car ça accélère l'érosion de la plage. » Mais Scott Smithers conclut, je cite, « De toute façon, c'est trop tard. Je pense pas que les villageois accepteront de détruire ces digues. » Un constat partagé par son collègue océanographe, John Hunter.
J'ai fait une étude de terrain sur l'atoll de Taku, au large de Bougainville, mais c'était dans le cadre d'un film documentaire. Notre mission était de déterminer s'il fallait évacuer les habitants face à la montée des eaux. Nous avons passé quelques semaines sur Taku et il nous est vite paru évident qu'il n'y avait pas d'urgence à évacuer l'île. Taku a certes changé un peu. Dans certains endroits, la plage a reculé à cause de l'érosion. Dans d'autres, elle a carrément avancé. Mais comme beaucoup d'îles dans le Pacifique, la superficie de Taku'u n'a pas changé au cours de ces 50 dernières années. Le problème dans les îles, c'est que les habitants, dès qu'ils voient l'eau monter, ils veulent tout de suite construire une digue. Ils le font d'autant plus qu'il y a une forte pression démographique dans ces îles. Chacun veut sa terre et ceux qui se retrouvent juste en bord de mer construisent une digue pour tenter d'avoir plus de terre.
Même si la digue est psychologiquement vraiment rassurante. Pour l'océanographe John Hunter, une seule solution, il faut abattre ces digues. Cela demande un certain lâcher-prise de la part des insulaires qui vivent tout au bord de l'océan.
Je vais vous expliquer comment fonctionne un atoll corallien. Il est constamment approvisionné en sédiments par le récif de corail frangeant, des sédiments apportés par les vagues et qui finissent leur course dans le lagon. Et l'atoll corallien est au milieu de cette circulation de sédiments. C'est comme ça qu'il est approvisionné en sable. Si le niveau de l'océan monte, le récif de corail pousse plus haut, donc il y a plus de sédiments. L'atoll recevra donc plus de sable et pourra lui aussi s'élever.
Nobody really knows what rate of sea level rise they can adjust to, but certainly the rise we're seeing at the moment, they should be able to adjust to.
Personne ne sait vraiment jusqu'à quelle élévation du niveau de l'océan les atolls coralliens peuvent s'adapter. Mais il est sûr qu'ils peuvent s'adapter à l'élévation actuelle. Donc, en général, ce qu'il faut faire, c'est essayer de laisser la nature faire son travail, donc d'abattre des digues. Alors forcément, les îles seront inondées périodiquement avec l'élévation du niveau de l'océan et avec les inondations, les îles recevront beaucoup de sédiments. Le vent peut aussi apporter des sédiments, mais le mieux, c'est une bonne inondation. Attention, ça ne veut pas dire que votre île va rétrécir. Ça veut juste dire que la ligne côtière va évoluer un peu. Les gens doivent comprendre que certains perdront un peu de leur terre, tandis que d'autres gagneront du terrain. Il va falloir gérer ça. Mais cela, eh bien, ce n'est que pour le court terme. Quand le changement climatique s'accélérera et que le niveau de l'océan montera significativement, là, on aura un vrai problème. Mais pour le moment et pour quelques décennies encore, nous n'avons pas besoin d'évacuer les habitants des îles que j'ai visitées.
Les habitants de l'atoll de Taku, dans l'archipel des Mortlocks, envisagent d'accepter leur transfert sur Bougainville dans une plantation. Ce déracinement crée d'intenses débats parmi les insulaires de Taku, et c'est d'ailleurs tout le sujet du documentaire « There Once Was an Island ». Abattre les digues, c'est la proposition numéro 1 de notre océanographe et de son compagnon, géomorphologiste, mais il y a encore une autre piste à explorer, et il va falloir se retrousser les manches, John Hunter.
À Taku, il y avait beaucoup de sédiments dans le lagon. Ce sont ces sédiments-là qui constituent les îles. Donc il y a suffisamment de matière première pour surélever l'île. Les habitants pourraient le faire eux-mêmes, à l'aide d'une drague ou même à la main, pelleter des sédiments du lagon pour surélever leur île. Mais c'est impossible sans l'aide d'un ingénieur en génie côtier pour savoir exactement à quel endroit du lagon vous devez extraire les sédiments. Ensuite, il faut que ce soit le même type de sédiments que ceux qui constituaient la plage auparavant. Mais c'est une solution temporaire. Peut-être faudra-t-il répéter l'opération périodiquement. À Kiribati, par exemple, ils reconstituent leur plage parce qu'ils ont surexploité le sable pour en faire du ciment. Ça se fait beaucoup dans le Pacifique.
L'océanographe John Hunter est tout sauf un sceptique du changement climatique, mais il affirme que les îles du Pacifique n'ont pas rétréci en 50 ans, contrairement à l'idée largement répandue par les ONG et par nous-mêmes, les médias. Oh, John Hunter n'est pas le seul à le dire, il l'a constaté pour l'atoll de Taku. Mais ses collègues scientifiques Paul Kench et Arthur Webb ont fait une étude systématique de 27 atolls dans le Pacifique et ils sont arrivés à la même conclusion. Non seulement les îles ne s'enfoncent pas sous l'effet de la montée du niveau de l'océan, mais ces atolls se sont même étendus en 50 ans. Voilà qui n'est pas pour plaire à certains écologistes, de même que l'idée qu'il n'y a pas d'urgence à faire des insulaires les premiers réfugiés climatiques. John Hunter.
Les îles du Pacifique servent d'icône du changement climatique. Beaucoup d'ONG et de médias mettent en avant l'idée que ces îles sont condamnées, qu'il faut évacuer leurs habitants. Pour eux, c'est la preuve que le changement climatique existe bel et bien. Mais nous avons des satellites dans l'espace qui mesurent l'élévation du niveau de l'océan. On sait que le changement climatique est en marche. On n'a pas besoin de croire que les îles sombrent pour croire au changement climatique. Alors, quand on suggère que ces îles ne sont pas aussi menacées qu'on voudrait bien le faire croire, forcément, les ONG et les médias n'aiment pas ça. Vous détruisez leur icône du changement climatique. On sait qu'il est en marche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut lâcher prise sur cette icône et se demander quelle est la meilleure chose à faire pour les habitants de ces îles. Eh bien, c'est de leur donner de bons conseils de gestion de leurs côtes.
give them good coastal management advice.
Voilà pour l'aspect psychologico-médiatique. Sur le plan scientifique, les choses sont malheureusement bien plus graves.
The sea level rise, you may be able to keep up, okay.
Les îles peuvent peut-être s'adapter à l'élévation du niveau des océans, mais lorsque l'élévation de ce niveau de l'océan sera deux ou trois fois plus rapide d'ici la fin du siècle, nous ne savons pas si l'adaptation naturelle des atolls pourra suivre le rythme. Certains pourraient ne pas s'adapter. Mais en plus de ça, il faut prendre en compte les deux autres effets du changement climatique. Le réchauffement de l'océan, qui peut provoquer le blanchiment et donc la mort du corail, et l'acidification de l'océan, qui entraîne la production de carbonate de calcium par les coraux, c'est-à-dire qui empêche leur croissance.
On en revient donc toujours à la même conclusion, on peut s'adapter dans une certaine mesure aux effets du changement climatique, mais le plus efficace reste bel et bien de réduire nos émissions de carbone. Ah, c'est sûr, c'est moins facile que de construire des digues.